Introduction à l'étude de la prophétie par Marc Tapernou. Première partie, l'histoire d'Israël, des nations et de l'Église jusqu'au retour de Christ. Petit b, les nations. Nous abordons maintenant l'examen des voies de Dieu envers un second groupe d'hommes, les nations. Il n'est d'ailleurs pas possible d'étudier leur histoire sans revenir constamment à celle du peuple d'Israël. En effet, ce peuple, composé de descendants de Sem, est au centre de l'histoire des nations. Il fut distingué de celle-ci par l'immense faveur d'être seul le peuple de Dieu et par l'honneur insigne de posséder le trône de Dieu
qui siège entre les chérubins.
1 Samuel 4, verset 4.
Et le peuple envoya à Silo et en apporta de là l'arche de l'alliance de l'Éternel des armées qui siège entre les chérubins.
C'est là ce qui a caractérisé le système des nations jusqu'à Nebuchadnetsar. Durant cette période, Dieu a pris le titre de « Seigneur de toute la terre », ce titre étant lié à la présence de l'arche, trône de Dieu en Israël, Josué 3, verset 11.
Voici l'arche de l'alliance du Seigneur de toute la terre va passer devant vous dans le Jourdain.
Une note en bas de page. Le nom de Seigneur de toute la terre est incompatible avec le pouvoir absolu et universel conféré dès l'an 607 avant Jésus-Christ aux nations. À ce moment, ainsi que nous l'avons vu, Dieu s'est retiré du milieu de son peuple et a pris le titre de « Dieu des cieux », voir en particulier les livres de Daniel, Esdras et Néhémie. Reprise de la lecture. On peut diviser l'histoire des nations en trois phases, savoir. Premièrement, l'état embryonnaire des nations, période qui va de Caïn à la tour de Babel. Genèse chapitre 4 à chapitre 11. Pendant cette période, les hommes se sont multipliés sur la terre sans système politique. Deuxièmement, l'histoire des nations de Babel à Nebuchadnetsar, période que nous avons décrite dans notre section précédente, où nous avons exposé le commencement de l'idolâtrie sur la terre, Josué 24, verset 2. L'appel d'Abraham, la délivrance du peuple d'Israël de l'Égypte, son entrée en Canaan, la transportation, nous n'y reviendrons pas.
Josué 24, verset 2, et Josué dit à tout le peuple, « Ainsi dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, vos pères, Térak, père d'Abraham et père de Nakhor, ont habité anciennement au-delà du fleuve, et ils ont servi d'autres dieux. »
Troisièmement, le temps des nations, période qui s'étend du règne de Nebuchadnetsar, à l'apparition en gloire du Seigneur. Il convient de la subdiviser en deux parties. La première concerne l'histoire passée des nations, telle que les prophéties de Daniel nous la rapportent. La seconde concerne leur histoire future que nous étudierons dans la troisième partie de ce travail, car elle est postérieure à l'enlèvement de l'Église et s'achève lors de l'instauration du règne millénaire. Chapitre 1er. L'état embryonnaire des nations. Premièrement, Dieu avait placé l'homme dans le jardin d'Éden, mais dut l'en chasser après la chute. Il prononça alors son verdict contre Satan, la femme, Adam et le sol. Genèse 3, versets 14 à 18.
Et l'Éternel Dieu dit au serpent, « Parce que tu as fait cela, tu es maudit par-dessus tout le bétail et par-dessus toutes les bêtes des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras la poussière tous les jours de ta vie. Et je mettrai inimitié entre toi et la femme et entre ta semence et sa semence. Elle te brisera la tête et toi tu lui briseras le talon. À la femme il dit, je rendrai très grandes tes souffrances et ta grossesse. En travail tu enfanteras des enfants. Et ton désir sera tourné vers ton mari, et lui dominera sur toi. Et à Adam il dit, « Parce que tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'ai commandé, disant, tu n'en mangeras pas, Maudit est le sol à cause de toi. Tu en mangeras en travaillant péniblement tous les jours de ta vie. Et il te fera germer des épines et des ronces, et tu mangeras l'herbe des champs.
Dieu dit,
et je mettrai inimitié entre toi et la femme, et entre ta semence et sa semence, verset 15.
La semence de Satan, ce sont tous ceux qui lui obéissent, à commencer par Caïn, assassin de son frère, et après lui la méchante génération que Dieu dut anéantir par le déluge, les hommes de la tour de Babel, tous les royaumes humains, qu'ils s'appellent Babylone, l'Égypte, Ninive ou Rome, et, pour finir, les nations sous la domination de la bête romaine et de l'Antichrist. Dans un certain sens, nous pouvons donc dire que l'histoire des nations est celle de la semence de Satan. Il n'est donc pas surprenant que les nations s'opposent constamment au peuple de Dieu et le persécutent, jusqu'au jour où le Seigneur interviendra en personne et les détruira. Deuxièmement, Caïn, bâtisseur de la première ville, Genèse 4, verset 17, fut le père d'une lignée d'hommes impies qui créèrent une civilisation remarquable dont il nous est parlé au verset 20 à 24.
Genèse 4, verset 17, et Caïn connut sa femme, et elle conçut et enfanta Hénoch. Et il bâtit une ville et appela le nom de la ville d'après le nom de son fils Hénoch. Versets 20 à 24. Et Adam enfanta Jabal. Lui fut père de ceux qui habitent sous des tentes et ont du bétail. Et le nom de son frère fut Jubal. Lui fut père de tous ceux qui manient la harpe et la flûte. Et Tsilla, elle aussi, enfanta Tubal-Caïn, qui fut forgeur de tous les outils d'airain et de fer. Et la sœur de Tubal-Caïn fut Naama. Et Lémec dit à ses femmes, « Ada et Tsilla, écoutez ma voix, femme de Lémec. Prêtez l'oreille à ma parole, je tuerai un homme pour ma blessure, et un jeune homme pour ma meurtrissure. Si Caïn est vengé 7 fois, Lémec le sera 77 fois. »
On en a retrouvé, paraît-il, des vestiges étonnants. Cette civilisation était toutefois marquée du sceau de Satan.
Et l'Éternel vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre, et que toute l'imagination des pensées de son cœur n'était que méchanceté en tout temps. Et l'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il s'en affligea dans son cœur. Et l'Éternel dit, « J'exterminerai de dessus la face de la terre l'homme que j'ai créé. » Genèse 6, verset 5. À 7.
Ce fut le déluge. Troisièmement, l'histoire des nations a commencé, à proprement parler, après le déluge.
Ce sont là les familles des fils de Noé, selon leur génération, dans leur nation, et c'est d'eux qu'est venue la répartition des nations sur la terre après le déluge. Genèse 10, verset 32.
C'est à cette répartition que se réfère le passage de Deutéronome 32, verset 8.
« Quand le Très-Haut partageait l'héritage aux nations, quand il séparait les fils d'Adam, il établit les limites des peuples selon le nombre des fils d'Israël. »
Le gouvernement post-déluvien fut confié à Noé et à ses fils.
« Et Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit, « Fructifiez et multipliez, et remplissez la terre. » Et vous serez un sujet de crainte et de frayeur pour tout animal de la terre et pour tout oiseau des cieux. Ils sont livrés entre vos mains. Genèse 9, versets 1 et 2.
Le premier royaume a été établi par Nimrod, petit-fils de Cham.
Lui commença à être puissant sur la terre. Il fut un puissant chasseur devant l'Éternel. Et le commencement de son royaume fut Babel, et Érech, et Akkad, et Calné, au pays de Shinar, Genèse 10, versets 9 à 10.
À leur tour, les descendants de Noé ne tardèrent pas à se corrompre. Pleins d'orgueil, ils lancèrent un défi à Dieu, en construisant une nouvelle ville et une tour dont le sommet devait s'élever jusqu'aux cieux. Genèse 11, verset 4.
Et ils dirent, « Allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet atteigne jusqu'aux cieux. » Et faisons-nous un nom, de peur que nous ne soyons dispersés sur la face de toute la terre.
Dieu les châtia en confondant leur langage et en les dispersant sur la face de toute la terre. Genèse chapitre 11, versets 7 et 8.
Allons, descendons et confondons là leur langage, afin qu'ils n'entendent pas le langage l'un de l'autre. Et l'Éternel les dispersa de là sur la face de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville.
Dès lors, il laissa les nations marcher dans leur propre voie. Acte 14, verset 16.
Lequel, dans les générations passées, a laissé toutes les nations marcher dans leur propre voie.
Mais il tira d'entre elles son peuple Israël, par lequel le salut devait être apporté un jour aux nations. En effet, Christ ayant été rejeté par Israël est prêché aujourd'hui aux nations. Après qu'Israël, ayant abandonné l'Éternel, fut emmené en captivité, Dieu confia un rôle nouveau aux nations dans le gouvernement de la terre. Quatrièmement, avant d'examiner cette deuxième période de l'histoire des nations, il nous paraît utile de considérer ce que la parole enseigne quant à leur caractère de tout temps. Ces caractères sont la corruption, la vanité, la méchanceté, la violence, l'idolâtrie, ainsi que le déclarent les quelques passages suivants.
L'Éternel a regardé des cieux sur les fils des hommes pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui recherche Dieu. Ils se sont tous détournés, ils se sont tous ensemble corrompus, il n'y a personne qui fasse le bien, non, pas même un seul. Psaume 14, versets 2 et 3. Ayant connu Dieu, ils ne le glorifièrent point comme Dieu, ni ne lui rendirent grâce, mais ils devinrent vains dans leur raisonnement, et leur cœur, destitué d'intelligence, fut rempli de ténèbres. Se disant sages, ils sont devenus fous, et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en la ressemblance de l'image d'un homme corruptible et d'oiseaux, et de quadrupèdes et de reptiles. C'est pourquoi Dieu les a aussi livrés dans les convoitises de leur cœur à l'impureté, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et ont honoré et servi la créature plutôt que celui qui l'a créé, qui est béni éternellement. Amen. Romains 1, versets 21 à 25. Toutes les nations sont comme un rien devant lui. Elles sont réputées par lui comme moins que le néant et le vide. Ésaïe 40, verset 17.
Dieu garde néanmoins la haute main sur les nations.
Il agrandit les nations et les détruit. Il étend les limites des nations et les ramène. Il ôte le sens au chef du peuple de la terre et les fait errer dans un désert où il n'y a pas de chemin. Il tâtonne dans les ténèbres où il n'y a point de lumière. Il les fait errer comme un homme ivre. Job 12, versets 23-25. Que toute la terre craigne l'Éternel, que tous les habitants le redoutent, car lui, il a parlé, et la chose a été. Il a commandé, et elle s'est tenue là. L'Éternel dissipe le conseil des nations. Il met à néant les desseins des peuples. Le conseil de l'Éternel subsiste à toujours. Les desseins de son cœur, de génération en génération. Psaume 33, versets 8 à 11.
Tout au long de notre étude, nous pourrons constater l'exactitude de ces déclarations divines, aussi bien en ce qui concerne les caractères moraux des nations que leur subordination au dessein de Dieu quant au gouvernement de la terre. Chapitre 2. Les temps des nations dans le passé. Avec l'apparition de Nebuchadnezzar sur la scène, commencent les temps des nations, Luc 21, verset 24, qui désigne la période pendant laquelle le gouvernement du monde est confié aux nations.
Luc 21, verset 24. Et ils tomberont sous le tranchant de l'épée et seront menés captifs parmi toutes les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis.
Ces temps subsisteront jusqu'à l'apparition en gloire du Seigneur Jésus. La chute de l'Empire romain n'en a pas interrompu le cours. Le livre du prophète Daniel expose l'histoire des nations sous la forme symbolique d'une statue, chapitre 2, et d'animaux, chapitres 7 et 8. Il mentionne, il est vrai, seulement les grands empires jouant un rôle prophétique en relation avec Israël. Bien que ces prophéties soient déjà accomplies en partie, elles n'en restent pas moins instructives, car elles permettent de constater la précision étonnante des révélations de Dieu, ce qui encourage le croyant à étudier d'autant plus attentivement celles qui ne sont pas encore réalisées. Elles passent entièrement sous silence la période actuelle de l'Église, dont le mystère n'a été révélé que par le Seigneur et ses apôtres. Cela se comprend aisément si l'on songe que ces prophéties exposent les voies de Dieu dans l'ordre politique, tandis que l'histoire de l'Église ressortit au domaine religieux, donc à un tout autre ordre de choses. Au chapitre 2 du livre de Daniel, les royaumes sont figurés par une grande statue que le roi Nebuchadnezzar vit en songe. La tête en était d'or, la poitrine et les bras d'argent, le ventre et les cuisses d'airain, les jambes de fer et les pieds de fer et d'argile. Au chapitre 7, Daniel décrit la vision qu'il eut lui-même des quatre royaumes sous forme de quatre grandes bêtes. Un lion portant des ailes d'aigle, un ours, un léopard ayant quatre ailes et quatre têtes, une bête effrayante armée de grandes dents de fer et portant 10 cornes. Enfin, dans une vision ultérieure, le prophète vit 2 autres bêtes représentant les 2e et 3e empires, savoir un bélier à 2 cornes d'inégale longueur et un bouc portant entre les yeux une corne puissante mais qui fut subitement brisée. Chapitre 8. Pour faciliter la compréhension de ces 3 visions et des événements qu'elles annoncent, nous en donnons un tableau synoptique, pages 54 et 55. Premier royaume, Babylone. La tête d'or de la statue et le lion ailé représentent l'empire de Babylone et son roi Nebuchadnezzar, auquel Dieu avait remis la domination. L'or, métal très précieux, et le lion, au roi des animaux, exprime la prééminence de cet empire sur les 3 autres. Il souligne aussi le caractère absolu du pouvoir royal de Nebuchadnezzar.
Toi, ô roi, tu es le roi des rois auquel le Dieu des cieux a donné le royaume, la puissance et la force et la gloire. Et partout où habitent les fils des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux des cieux, il les a mis entre tes mains et t'a fait dominer sur eux tous. Daniel 2, verset 37-38.
Cependant, l'empire babylonien ne subsista pas très longtemps après Nebuchadnezzar. Son dernier successeur, Belshazzar, fit un festin sacrilège à 1000 de ses grands, tandis que les armées de Darius le Mède, conduites par Cyrus, assiégeaient Babylone. Au milieu du festin apparut une main mystérieuse qui écrivit ces mots sur la paroi, « Mene, Tekel, Upharsin ». Seul Daniel put lire et interpréter cette inscription, voir Daniel 5. Il annonça à Belshazzar que son royaume allait être divisé et donné aux Mèdes et aux Perses, verset 28. La nuit même, la ville fut prise par Cyrus et le roi de Babylone fut tué, 538 avant Jésus-Christ. Ainsi fut brisée pour toujours la puissance babylonienne, la tête d'or. Deuxième royaume, les Mèdes et les Perses. En Daniel 5, verset 31, nous lisons qu'après la destruction de l'empire babylonien,
Darius, le Mède, reçut le royaume, étant âgé d'environ 62 ans.
Cyrus, roi de Perse, neveu et beau-fils de Darius, lui succéda bientôt, réunissant les 2 nations sous son sceptre. Cette dualité est représentée par la poitrine et les 2 bras d'argent. Daniel 2, verset 32. Par l'ours qui se dresse sur un côté, chapitre 7, verset 5, et par le bélier de cornes inégales, chapitre 8, verset 3.
Daniel 2, verset 32, la tête de cette statue est d'or pur, sa poitrine et ses bras d'argent. Daniel 7, verset 5, et voici une seconde bête semblable à un ours, et elle se dressait sur un côté, et elle avait 3 côtes dans sa gueule entre ses dents. Et on lui dit ainsi, lève-toi, mange beaucoup de chair. Daniel 8, verset 3, et je levai les yeux et je vis, et voici un bélier se tenait devant le fleuve, et il avait 2 cornes, et les 2 cornes étaient hautes, et l'une était plus haute que l'autre, et la plus haute s'éleva la dernière.
Mais examinons de plus près les diverses caractéristiques de ce royaume. Tout d'abord, il fut inférieur au précédent. Daniel 2, 39.
et après toi s'élèvera un autre royaume inférieur à toi.
En effet, l'argent a moins de valeur que l'or, et l'ours n'a pas la réputation du lion, bien qu'il soit fort, entêté et féroce. L'ours se dressait sur un côté, ce qui fait ressortir le rôle inégal que les Mèdes, puis les Perses jouèrent dans l'Empire. Et tenait trois côtes entre ses dents, et on lui dit « Lève-toi, mange beaucoup de chair », ce qui est une allusion aux conquêtes de ce royaume, dans trois directions, à l'ouest, la Mésopotamie et l'Asie mineure, au nord, l'Arménie et les pays, s'étendant jusqu'au Turkestan, au sud, la Syrie, la Palestine et l'Égypte. Daniel 8, verset 4.
Je vis le bélier heurtant vers l'Occident et vers le Nord et vers le Midi, et aucune bête ne pouvait tenir devant lui.
Israël demeura assujetti à cet empire comme il l'avait été à l'empire babylonien. Le plus puissant de ses monarques fut Cyrus, dont il nous est beaucoup parlé dans le livre d'Esdras. C'est lui qui, comme nous l'avons vu, donna le premier l'ordre aux captifs de Juda de retourner en Palestine. Esdras 1, verset 1 à 3. Tandis que ses successeurs Darius, fils d'Istaspe, et Artaxerxès Longue-Main firent rebâtir le temple et la ville de Jérusalem. Esdras 6, verset 14, Néhémie 2, verset 1 à 8.
Esdras 1, verset 1 à 3. Et la première année de Cyrus, roi de Perse, afin que fût accomplie la parole de l'Éternel, dite par la bouche de Jérémie, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse. Et il fit une proclamation dans tout son royaume, et la publia aussi par écrit, disant, « Ainsi dit Cyrus, roi de Perse, Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre, et il m'a chargé de lui bâtir une maison à Jérusalem, qui est en Juda. Qui d'entre vous, quel qu'il soit et de son peuple, que son Dieu soit avec lui, et qu'il monte à Jérusalem, qui est en Juda, et qu'il bâtisse la maison de l'Éternel, le Dieu d'Israël, lui et Dieu, à Jérusalem. » Esdras 6, verset 14, « Et les anciens des Juifs bâtirent et prospérèrent par la prophétie d'Agé le prophète, et de Zacharie, fils d'Ido. Ils bâtirent et achevèrent selon l'ordre du Dieu d'Israël, et selon l'ordre de Cyrus et de Darius et d'Artaxerxès, roi de Perse. » Néhémie 2, verset 1 à 8. Et il arriva au mois de Nisan, la 20e année du roi Artaxerxès, comme le vin était devant lui, que je pris le vin et le donnai au roi. Et je n'avais pas été triste en sa présence. Et le roi me dit, « Pourquoi as-tu mauvais visage, et pourtant tu n'es pas malade? Cela n'est rien que de la tristesse de cœur. » Alors j'eus extrêmement peur. Et je dis au roi, « Que le roi vive à toujours. Pourquoi mon visage ne serait-il pas triste, quand la ville, le lieu des sépulcres de mes pères, est dévastée, et que ses portes sont consumées par le feu? » Et le roi me dit, « Que demandes-tu? » Et je priai le Dieu des cieux, et je dis au roi, « Si le roi le trouve bon, et si ton serviteur est agréable devant toi, qu'il m'envoie en Juda à la ville des sépulcres de mes pères, et je la bâtirai. » Alors le roi me dit, et la reine était assise à son côté, « Combien de temps durera ton voyage, et quand reviendras-tu ? » Et il plut au roi de m'envoyer, et je lui fixai un temps. Et je dis au roi, « Si le roi le trouve bon, qu'il me donne des lettres pour les gouverneurs de l'autre côté du fleuve, pour qu'ils me fassent passer jusqu'à ce que j'arrive en Juda, et une lettre pour Asaph, gardien de la forêt du roi, afin qu'il me donne du bois pour faire la charpente, des portes du château fort attenant à la maison, et pour la muraille de la ville, et pour la maison dans laquelle je dois entrer. » Et le roi me les donna, selon que la bonne main de mon Dieu était sur moi.
Mais les Juifs ne recouvrèrent pas l'arche, trône de Dieu, ni leur indépendance, et les temps des nations poursuivirent leur cours selon le décret divin. Troisième royaume, la Grèce. L'empire grec est représenté par le ventre et les cuisses des reins de la statue de Daniel 2, par le léopard ailé de Daniel 7, et, en Daniel 8, par un bouc ayant une grande corne entre les yeux. Cette dernière vision est particulièrement intéressante. Daniel vit ce bouc arriver d'Occident et détruire rapidement le bélier à deux cornes.
Et le bouc devint très grand. Et lorsqu'il fut devenu fort, la grande corne fut brisée, et quatre cornes de grande apparence s'élevèrent à sa place, vers les quatre vents des cieux, verset 8.
L'ange Gabriel expliqua cette vision à Daniel.
Le bélier que tu as vu, qui avait deux cornes, ce sont les rois de Médie et de Perse. Et le bouc velu, c'est le roi de Javan, la Grèce. Et la grande corne qui était entre ses yeux, c'est le premier roi. Et qu'elle ait été brisée, et que quatre autres cornes se soient élevées à sa place, c'est que quatre royaumes s'élèveront de la nation, mais non avec sa puissance. Versets 20 à 22.
Le chapitre 11 contient aussi des détails intéressants sur ce sujet.
Et un roi vaillant se lèvera et exercera une grande domination, et il agira selon son bon plaisir. Et quand il se sera levé, son royaume sera brisé et sera divisé vers les quatre vents des cieux, et ne passera pas à sa postérité. Versets 3 et 4.
Voyons maintenant comment cette prophétie s'accomplit quelque 300 ans plus tard. Alexandre le Grand, roi à 20 ans, conquit en quelques années l'Asie mineure, la Syrie, Tyre et Sidon, la Palestine, l'Égypte, la Mésopotamie, la Perse, et parvint presque aux Indes. L'image du léopard ailé rend avec une grande force d'expression la rapidité incroyable avec laquelle Alexandre constitua son fabuleux empire. Mais il mourut à 33 ans, 323 avant Jésus-Christ, au faîte de sa puissance, ce qui est symbolisé par la grande corne qui fut brisée tout à coup. Quatre de ses généraux se partagèrent ses conquêtes et firent périr ses descendants. L'histoire profane confirme ainsi, une fois de plus, et jusqu'en leur détail, l'exactitude des faits annoncés des siècles d'avance par la parole. Bien que la foi en Dieu n'ait nul besoin de semblable confirmation, elle trouve là une preuve irréfutable de l'inspiration des Écritures. Durant le Troisième Empire, les Juifs continuèrent à être assujettis aux nations, leur sort passant par des alternatives d'allègement et d'aggravation. Ils eurent particulièrement à souffrir des persécutions d'un roi de Syrie, nommé Antiochus Épiphane, 175-164 avant Jésus-Christ. Il nous est parlé de lui en Daniel 8, versets 9 à 14, ainsi qu'au chapitre 11, versets 21 à 27, comme d'un envahisseur qui mettra le pays de beauté, la Palestine, à feu et à sang.
Daniel 8, versets 9 à 14. Et de l'une d'elles sortit une petite corne, et elle grandit extrêmement vers le midi, et vers le levant, et vers le pays de beauté. Et elle grandit jusqu'à l'armée des cieux, et fit tomber à terre une partie de l'armée, et des étoiles, et les foula aux pieds. Et il s'éleva jusqu'au chef de l'armée, et le sacrifice continuel fut ôté à celui-ci, et le lieu de son sanctuaire fut renversé. Et un temps de détresse fut assigné au sacrifice continuel pour cause de transgression. Et elle jeta la vérité par terre, et agit, et prospéra. Et j'entendis un saint qui parlait, et un autre saint dit au personnage qui parlait, « Jusqu'où va la vision du sacrifice continuel, et de la transgression qui désole, pour livrer le lieu saint et l'armée pour être foulée aux pieds ?» Et il me dit, jusqu'à 2300 soirs et matins, alors le lieu saint sera purifié. Chapitre 11, versets 21 à 27. Et un homme méprisé s'élèvera à sa place, auquel on ne donnera pas l'honneur du royaume, mais il entrera paisiblement, et prendra possession du royaume par des flatteries. Et les forces qui débordent seront débordées devant lui, et seront brisées, et même le prince de l'Alliance. Et dès qu'il se sera associé à lui, il agira avec fraude, et il montera, et sera fort avec peu de gens. En pleine paix, il entrera dans les lieux les plus riches de la province, et il fera ce que ses pères et les pères de ses pères n'ont pas fait. Il leur distribuera du butin et des dépouilles et des richesses, et il tramera ses desseins contre les places fortes, et cela pour un temps. Et il réveillera sa puissance et son cœur contre le roi du Midi avec une grande armée. Et le roi du Midi s'engagera dans la guerre avec une grande et très puissante armée. mais il ne tiendra pas, car ils trameront leurs desseins contre lui, et ceux qui mangeaient ses mets délicats le briseront, et son armée se dissoudra, et beaucoup de gens tomberont tués. Et ces deux rois auront à cœur de faire du mal, et diront des mensonges à une même table, mais cela ne réussira pas, car la fin sera encore pour le temps déterminé.
Les versets 28 à 33 de ce chapitre annoncent aussi clairement une autre invasion.
Des forces profaneront le sanctuaire de la forteresse et ôteront le sacrifice continuel, et elles placeront l'abomination qui cause la désolation.
Pour finir, les Juifs de Palestine cherchèrent à s'allier aux Romains dans l'espoir de se protéger des agressions incessantes dont ils étaient les victimes de la part des successeurs d'Alexandre. Cette alliance ne fit que précipiter leur assujettissement au pouvoir de Rome. Quatrième royaume, l'Empire romain. Le quatrième royaume est figuré, par la statue de Nebuchadnezzar, par les jambes de fer et les pieds de fer et d'argile, tandis que, dans la vision que Daniel rapporte au chapitre 7 de son livre, ce royaume est représenté par une bête effrayante. Ce quatrième empire est celui de Rome, bien que, à la différence des trois premiers, le livre de Daniel ne le nomme pas expressément. Cependant, nous savons que cet empire succéda de fait à l'empire grec. D'autre part, les caractéristiques des jambes et des pieds de la statue, et surtout le comportement de la quatrième bête, reflète exactement les caractères moraux du pouvoir de Rome. On peut même dire que Rome a accompli jusqu'ici ce qui est dit de la quatrième bête, avec une exactitude plus grande encore, s'il est possible, que les trois autres empires ne l'ont fait. Les grandes dents de fer dont cette bête était armée, de même que les jambes de fer de la statue, symbolise clairement le régime autoritaire que les Romains instituèrent dans tout leur empire. L'importance de ce quatrième et dernier empire est considérable, à en juger par la place qui lui est réservée dans la prophétie de Daniel, sans parler de ce que nous révèle l'Apocalypse, chapitres 13 et 17. Le rôle qu'il a joué et qu'il sera appelé à jouer encore dans les voies de Dieu à l'égard de son peuple et du monde confirme cette constatation. Il manifestera, à l'avenir encore, les mêmes caractères de force brutale et de volonté infrangible qui furent les siens dans le passé.
Et le quatrième royaume sera fort comme le fer, de même que le fer broie et écrase tout. Et que le fer brise toutes ces choses, il broiera et brisera, Daniel 2, verset 40. Et voici une quatrième bête effrayante et terrible, et extraordinairement puissante, et elle avait de grandes dents de fer. Elle dévorait et écrasait, et ce qui restait, elle le foulait avec ses pieds. Et elle était différente de toutes les bêtes qui étaient avant elle, chapitre 7, verset 7.
Le verset 19 de ce chapitre répète cette description, et au verset 23, Daniel en reçoit l'explication. La quatrième bête sera un quatrième royaume sur la terre qui sera différent de tous les royaumes, et dévorera toute la terre, et la foulera aux pieds, et l'écrasera. Tel fut bien le cas. L'Empire romain étendit sa domination, non seulement sur l'Orient comme les trois royaumes précédents, mais aussi sur toute l'Europe méridionale et occidentale, jusqu'à l'Elbe, au Danube et aux rives de la mer Noire. Cependant, jadis uni et compact, cet empire s'est divisé assez tôt en deux, ce que symbolisent les deux jambes de la statue du chapitre 2, verset 33, division qui donna naissance à l'Empire romain d'Orient et à celui d'Occident. Puis, il s'effondra sous le choc répété des invasions barbares, et ses fragments constituèrent la plupart des pays d'Europe. À la fin des temps, ces nations seront de nouveau réunies sous un pouvoir unique, celui du huitième roi, Apocalypse 17, verset 11, le chef de l'Empire romain reconstitué, dont nous nous occuperons plus tard.
Apocalypse 17, verset 11. Et la bête qui était et qui n'est pas, et elle aussi un huitième, et elle est d'entre les sept, et elle s'en va à la perdition.
Les tentatives d'unifier l'Europe auxquelles nous assistons aujourd'hui sont peut-être les signes avant-coureurs de cette renaissance. En tout cas, les matériaux nécessaires existent, et lorsque le moment fixé par Dieu sera arrivé, ils se regrouperont en un tout plus ou moins homogène, mais ce sera pour être jugé et détruit par la pierre qui se détachera sans main, frappera la statue dans ses pieds et la broiera tout entière. Alors le Dieu des cieux établira un royaume qui ne sera jamais détruit et subsistera à toujours. Daniel 2, versets 34, 35, 44, 45.
Et tu vis jusqu'à ce qu'une pierre se détachât sans main, et elle frappa la statue dans ses pieds de fer et d'argile et les broya. Alors furent broyés ensemble le fer, l'argile, l'airain, l'argent et l'or, et ils devinrent comme la balle de l'air d'été, et le vent les emporta, et il ne se trouva aucun lieu pour eux. Et la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne qui remplit toute la terre. Et dans les jours de ses rois, le Dieu des cieux établira un royaume qui ne sera jamais détruit, et ce royaume ne passera point à un autre peuple. Il broiera et détruira tous ses royaumes, mais lui, il subsistera à toujours. Selon que tu as vu que, de la montagne, la pierre s'est détachée sans main, et qu'elle a broyé le fer, l'airain, l'argile, l'argent et l'or, le grand Dieu fait connaître au roi ce qui arrivera ci-après, et le songe est certain, et son interprétation est sûre.
C'est donc le retour de Christ qui mettra fin à l'Empire romain. Daniel ne mentionne pas l'éclipse prolongée de cet empire depuis sa chute au IVe siècle de notre ère. En revanche, l'Apocalypse nous en parle clairement en ces termes.
La bête que tu as vue était,
c'était l'ancien empire romain,
et n'est pas,
c'est l'éclipse actuelle de l'empire,
et va monter de l'abîme et aller à la perdition.
L'empire sera rétabli pour être détruit définitivement.
Et ceux qui habitent sur la terre s'étonneront, en voyant la bête qu'elle était et qu'elle n'est pas, et qu'elle sera présente. Chapitre 17, verset 8.
Nous avons constaté que l'état de sujétion d'Israël ne s'était pas modifié sensiblement sous les trois premiers royaumes. En revanche, sous la domination romaine, s'exécuta le jugement final annoncé en Daniel 9, verset 26.
Et après les 62 semaines, le Messie sera retranché et n'aura rien. Et le peuple du prince qui viendra détruira la ville et le lieu saint, et la fin en sera avec débordement.
Les Romains crucifièrent le Messie à la demande des Juifs. Puis, en l'an 70, ils détruisirent la ville et le temple de Jérusalem, et amenèrent les rescapés du peuple en captivité dans toutes les parties de l'Empire. À la fin des temps, Rome interviendra de nouveau dans la vie nationale d'Israël rentrée en Palestine, tout d'abord sous la forme d'une alliance diabolique entre le chef de l'Empire romain et le peuple juif, puis par les terribles persécutions de la Grande Tribulation, Daniel 9, 27, jusqu'au jour où le Seigneur délivrera son peuple, chapitre 7, versets 21 et 22.
Daniel 9, verset 27. Et il confirmera une alliance avec la multitude pour une semaine, et au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Et à cause de la protection des abominations, il y aura un désolateur, et jusqu'à ce que la consomption et ce qui est décrété soient versés sur la désolée. Daniel 7, versets 21 et 22. Je regardai, et cette corne fit la guerre contre les saints, et prévalut contre eux jusqu'à ce que l'ancien des jours vînt, et que le jugement fût donné aux saints des lieux très hauts, et que le temps arriva où les saints possédèrent le royaume.
On peut donc dire que, des quatre royaumes dont l'Écriture nous entretient, le dernier, l'Empire romain, jouera le rôle le plus important et aussi le plus dramatique dans l'histoire du peuple d'Israël. Cela explique la place considérable que l'Esprit-Saint lui accorde dans la prophétie et les termes expressifs dont il se sert pour le décrire.
Bête effrayante et terrible et extraordinairement puissante, chapitre 7, verset 7.
Nous avons résumé ainsi l'histoire des nations jusqu'au retour du Seigneur, telle qu'elle nous est exposée dans la parole. Nous reprendrons, dans notre troisième partie, l'examen de ce qu'il doit advenir de ces nations après l'enlèvement de l'Église et jusqu'à l'apparition en gloire du Fils de l'homme. Anticipant cette période, nous avons fait de brèves allusions aux jugements qui les atteindront avant l'établissement du règne millénaire. Puisse la merveilleuse précision des prophéties, confirmée par le cours déjà révolu de l'histoire, contribuer à accroître notre intérêt à l'égard de celles qui ne sont pas encore réalisées et augmenter en nous le désir de sonder les révélations divines avec le secours du Saint-Esprit. Que le Seigneur nous accorde d'être diligents dans cette étude si propre à occuper nos cœurs de son prochain retour. Chapitre 3. Le chef de ce monde. Premièrement, on ne peut guère décrire l'histoire des nations sans dire quelques mots de celui qui les conduit et qui est appelé par le Seigneur lui-même le chef du monde. Jean 14, verset 30.
Je ne parlerai plus beaucoup avec vous, car le chef du monde vient et il n'a rien en moi.
Nous aurons à considérer à plusieurs reprises au cours de notre étude les manifestations de sa puissance maléfique parmi les hommes, comme aussi des jugements que Dieu exécutera contre lui et contre ses anges avant et après le millénium. Aussi, pour bien comprendre les événements de la fin, est-il nécessaire de connaître ce que la parole nous enseigne au sujet de Satan, dont le nom signifie accusateur, adversaire. Le mot « diable » est tiré d'un terme grec ayant un sens analogue, calomniateur. L'Écriture lui donne d'ailleurs plusieurs noms ou titres faisant ressortir ses divers caractères. Le tentateur, Matthieu 4, verset 3.
Et le tentateur, s'approchant de lui, dit, si tu es fils de Dieu, dis que ces pierres deviennent des pains.
Le grand dragon, le serpent ancien, Apocalypse 12, verset 9.
Et le grand dragon fut précipité, le serpent ancien, celui qui est appelé diable et Satan, celui qui séduit la terre habitée tout entière. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui.
Le meurtrier dès le commencement, le menteur, le père du mensonge, Jean 8, 44.
Vous, vous avez pour père le diable et vous voulez faire les convoitises de votre père. Lui a été meurtrier dès le commencement. Et il n'a pas persévéré dans la vérité, car il n'y a pas de vérité en lui. Quand il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge.
Deuxièmement, deux passages de l'Ancien Testament contiennent des indications sur l'origine de ce terrible ennemi du genre humain. Ézéchiel 28, versets 12 à 17.
Ainsi dit le Seigneur l'Éternel. Toi, tu étais la forme accomplie de la perfection, pleine de sagesse et parfaite en beauté. Tu as été en Éden, le jardin de Dieu. Toutes les pierres précieuses te couvraient, le sardius, la topaze et le diamant, le chrysolite, l'onyx et le jaspe, le saphir, l'escarboucle et l'émeraude et l'or. Le riche travail de tes tambourins et de tes flûtes était en toi. Au jour où tu fus créé, ils étaient préparés. Tu étais un chérubin oint qui couvrait,
c'est-à-dire qui protégeait,
et je t'avais établi tel. Tu étais dans la sainte montagne de Dieu. Tu marchais parmi les pierres de feu. Tu fus parfait dans tes voies depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à ce que l'iniquité s'est trouvée en toi. Par l'abondance de ton trafic, ton intérieur a été rempli de violence et tu as péché, et je t'ai précipité de la montagne de Dieu comme une chose profane, et je t'ai détruit du milieu des pierres de feu, ô chérubin qui couvrait. Ton cœur s'est élevé pour ta beauté, tu as corrompu ta sagesse à cause de ta splendeur. Je t'ai jeté à terre, je t'ai mis devant les rois afin qu'ils te voient.
Enfin, Ésaïe 14, versets 12 à 15 contient une description analogue.
Comment es-tu tombé des cieux, astre brillant, fils de l'aurore? Tu es abattu jusqu'à terre, toi qui subjuguais les nations. Et toi, tu as dit dans ton cœur, je monterai aux cieux, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, et je m'assiérai sur la montagne de l'assignation,
ou du rassemblement,
au fond du nord. Je monterai sur les hauteurs des nues, je serai semblable au Très-Haut. Toutefois, on t'a fait descendre dans le Shéol, au fond de la fosse.
Certes, ces deux prophéties concernaient les rois de Tyr et de Babylone, mais il est évident qu'elles visaient celui qui avait fait d'eux ses instruments. Nous apprenons ainsi que Satan avait été créé par Dieu et doté d'une perfection, d'une beauté et d'une sagesse extraordinaire. Investi du rôle de chérubin protecteur sur la sainte montagne, il détenait une autorité et une gloire telles qu'il est permis de penser qu'il occupait une position pareille à celle de l'archange Michel. Enfin, il fut parfait dans ses voies jusqu'au jour où l'iniquité s'est trouvée en lui et où il corrompit sa sagesse à cause de sa splendeur. L'orgueil remplit son cœur et le poussa à vouloir détrôner Dieu.
Je monterai aux cieux, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je serai semblable au Très-Haut.
Il fut alors jeté à terre et précipité dans le Shéol au fond de la fosse, image de la chute qui suivit sa révolte insensée contre Dieu. Satan avait réussi à associer à ses plans les anges qui lui sont soumis. Il les entraîna dans sa chute. Ils devinrent des démons.
Ces principautés, autorités, dominateurs des ténèbres, cette puissance spirituelle de méchanceté qui est dans les lieux célestes,
dont il est parlé en Éphésiens 6, verset 12, et contre lesquels le chrétien doit mener une lutte incessante, mais qui est victorieuse dans la mesure où il est revêtu de l'armure complète de Dieu. Ce passage montre que, tout en exerçant leur funeste activité parmi les hommes, le diable et ses anges n'en sont pas moins dans les lieux célestes. Dans l'Ancien Testament, nous le voyons à deux reprises se présenter devant Dieu pour accuser Job, Job 1, verset 6 à 12 et 2, verset 1 à 7, et une troisième fois pour s'opposer à Joshua, le grand sacrificateur, Zacharie 3, verset 1 à 3.
Job 1, verset 6 à 12. Or, un jour, il arriva que les fils de Dieu vinrent se présenter devant l'Éternel, et Satan aussi vint au milieu d'eux. Et l'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu ? » Et Satan répondit à l'Éternel et dit, « De courir çà et là sur la terre et de m'y promener. » Et l'Éternel dit à Satan, « As-tu considéré mon serviteur Job, qu'il n'y a sur la terre aucun homme comme lui, parfait et droit, craignant Dieu et se retirant du mal ?» Et Satan répondit à l'Éternel et dit, « Est-ce pour rien que Job craigne Dieu ? Ne l'as-tu pas, toi, entouré de toutes parts d'une haie de protection, lui et sa maison et tout ce qui lui appartient ? Tu as béni le travail de ses mains. Et tu as fait abonder son avoir sur la terre. Mais étends ta main et touche à tout ce qu'il a, tu verras s'il ne te maudit pas en face. » Et l'Éternel dit à Satan, « Voici, tout ce qu'il a est en ta main, seulement tu n'étendras pas ta main sur lui. » Et Satan sortit de la présence de l'Éternel. Job 2, versets 1 à 7. Or, un jour, il arriva que les fils de Dieu vinrent se présenter devant l'Éternel, et Satan aussi vint au milieu d'eux se présenter devant l'Éternel. Et l'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu ? » Et Satan répondit à l'Éternel et dit, « De courir, çà et là, sur la terre, et de m'y promener. » Et l'Éternel dit à Satan, « As-tu considéré mon serviteur Job, qu'il n'y a sur la terre aucun homme comme lui, parfait et droit, craignant Dieu et se retirant du mal, et encore il reste ferme dans sa perfection, alors que tu m'as incité contre lui pour l'engloutir sans cause. » Et Satan répondit à l'Éternel et dit, « Peau pour peau, et tout ce qu'un homme a, il le donnera pour sa vie. Mais étends ta main et touche à ses os et à sa chair, tu verras s'il ne te maudit pas en face. » Et l'Éternel dit à Satan, « Le voilà entre tes mains, seulement épargne sa vie. » Et Satan sortit de la présence de l'Éternel, et il frappa Job d'un ulcère malin, depuis la plante de ses pieds jusqu'au sommet de sa tête. Zacharie 3, versets 1 à 3. Et il me fit voir Joshua, le grand sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan se tenant à sa droite pour s'opposer à lui. Et l'Éternel dit à Satan, « Que l'Éternel te tense, Satan, que l'Éternel qui a choisi Jérusalem te tense. Celui-ci n'est-il pas un tison sauvé du feu ? » Et Joshua était vêtu de vêtements sales et se tenait devant l'ange.
Troisièmement, son rôle principal est d'égarer les hommes, de les détourner de Dieu et de les asservir à sa propre puissance, en vue de les précipiter dans le malheur éternel. Il s'acharne aussi d'une manière toute particulière contre les enfants de Dieu, afin de les priver de la jouissance de leur position en Christ, de les troubler par mille artifices destinés à détacher, si possible, leur cœur de leur bien-aimé Seigneur et Sauveur. Enfin, souvent au cours des âges, il les a persécutés et mis à mort dans l'espoir d'anéantir le témoignage de l'Église ici-bas. Pour accomplir ses funestes desseins, il se sert des hommes qui, ayant rejeté la lumière, ont préféré les ténèbres. Jean 1, versets 5, 9 et 10.
Et la lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas comprise. La vraie lumière était celle qui, venant dans le monde, éclaire tout homme. Il était dans le monde, et le monde fut fait par lui, et le monde ne l'a pas connu.
Il entre en eux et les dirige à sa guise comme des marionnettes. La parole nous rapporte de nombreux cas de possession démoniaque, et le plus effrayant n'est-il pas celui de Judas ? Satan entra en lui, nous est-il dit en Luc 22, verset 3, au moment où il s'apprêtait à livrer son maître au chef du peuple.
Et Satan entra dans Judas, surnommé Iscariote, qui était du nombre des douze.
De nos jours encore, il en est de même, et il suffit de considérer ce qui se passe dans le monde pour vérifier les conséquences effrayantes de cette puissance diabolique. Ce ne sont partout que guerre, crime, violence, haine, asservissement de l'homme, angoisse, rapine, etc. Mais qu'est-ce que cela comparé aux manifestations futures du pouvoir de Satan incarné dans l'Antichrist ? Celui-ci sera son représentant sur la terre, l'instrument humain dont le diable se servira pour asservir entièrement les hommes, l'homme de péché, qui se fera adorer publiquement. L'Église étant auprès du Seigneur, l'humanité se livrera, dans une sorte de frénésie collective, au pouvoir de l'inique,
duquel la venue est, selon l'opération de Satan, en toutes sortes de miracles et signes et prodiges de mensonges, et en toute séduction d'injustice pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Et à cause de cela, Dieu leur envoie une énergie d'erreur pour qu'ils croient au mensonge, afin que tout cela soit jugé, qui n'ont pas cru la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice. De Thessaloniciens 2, versets 9 à 12.
La méchanceté de l'ennemi se manifestera alors dans toute son étendue et son incommensurable horreur. À cet effet, il démasquera complètement son abominable système, jusque-là si habilement camouflé. Son faux Christ, Apocalypse 13, versets 11 à 18.
Et je vis une autre bête montant de la terre, et elle avait deux cornes semblables à un agneau, et elle parlait comme un dragon, et elle exerce tout le pouvoir de la première bête devant elle, et fait que la terre et ceux qui habitent sur elle rendent hommage à la première bête, dont la plaie mortelle avait été guérie. et elle fait de grands miracles, en sorte que même elle fait descendre le feu du ciel sur la terre devant les hommes. Et elle séduit ceux qui habitent sur la terre à cause des miracles qu'il lui fut donné de faire devant la bête, disant à ceux qui habitent sur la terre de faire une image à la bête qui a la plaie de l'épée et qui a repris vie. Et il lui fut donné de donner la respiration à l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât même, et qu'elle fît que tous ceux qui ne rendraient pas hommage à l'image de la bête fussent mis à mort. Et elle fait qu'à tous, petits et grands, et riches et pauvres, et libres et esclaves, on leur donne une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne peut acheter ou vendre, sinon celui qui a la marque, le nom de la bête, ou le nombre de son nom. Ici est la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence compte le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666.
Ces fausses doctrines, 1 Timothée 4, verset 1.
Or l'Esprit dit expressément qu'au dernier temps, quelques-uns apostasieront de la foi, s'attachant à des esprits séducteurs et à des enseignements de démons.
Apocalypse 2, 24.
Mais à vous, je dis, aux autres qui sont à Thyatire, autant qu'il y en a qui n'ont pas cette doctrine, qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan comme ils disent, je ne vous impose pas d'autre charge.
Ces adorateurs, de Thessaloniciens 2, verset 4.
Le fils de perdition qui s'oppose et s'élève contre tout ce qui est appelé Dieu ou qui est un objet de vénération, en sorte que lui-même s'assiera au temple de Dieu, se présentant lui-même comme étant Dieu.
Apocalypse 13, verset 8.
Et tous ceux qui habitent sur la terre dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau immolé lui rendront hommage.
Ses anges, Apocalypse 12, verset 8.
Et le dragon combattait ses anges, et il ne fut pas le plus fort, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel.
Ésaïe 24, verset 21.
Et il arrivera en ce jour-là que l'Éternel visitera l'armée d'en haut en haut, et les rois de la terre sur la terre.
Ses ministres, 2 Corinthiens 11, verset 15.
Ce n'est donc pas chose étrange si ses ministres aussi se transforment en ministres de justice, desquels la fin sera selon leurs œuvres.
Son royaume, Luc 4, verset 6.
Je te donnerai toute cette autorité et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée, et je la donne à qui je veux.
Sa puissance, de Thessaloniciens 2, verset 9.
Duquel la venue est selon l'opération de Satan, en toutes sortes de miracles et signes et prodiges de mensonges. Apocalypse 13, verset 2. Et 13, verset 15. Et la bête que je vis était semblable à un léopard, et ses pieds comme ceux d'un ours, et sa bouche comme la bouche d'un lion. Et le dragon lui donna sa puissance et son trône et un grand pouvoir. Et elle fait de grands miracles, en sorte que même elle fait descendre le feu du ciel sur la terre devant les hommes. Et elle séduit ceux qui habitent sur la terre à cause des miracles qu'il lui fut donné de faire devant la bête, disant à ceux qui habitent sur la terre de faire une image à la bête qui a la plaie de l'épée et qui a repris vie. Et il lui fut donné de donner la respiration à l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât même, et qu'elle fît que tous ceux qui ne rendraient pas hommage à l'image de la bête fussent mis à mort.
Quatrièmement, mais le Seigneur interviendra lui-même et anéantira tout ce système diabolique.
Et je vis la bête,
c'est-à-dire le chef de l'Empire romain reconstitué,
et les rois de la terre et leurs armées assemblées pour livrer combat à celui qui était assis sur le cheval et à son armée,
c'est-à-dire Christ et les rachetés,
et la bête fut prise et le faux prophète,
c'est-à-dire l'Antichrist,
qui était avec elle, qui avait fait devant elle les miracles par lesquels il avait séduit ceux qui recevaient la marque de la bête et ceux qui rendaient hommage à son image. Ils furent tous deux jetés vifs dans l'étang de feu embrasé par le soufre, et le reste fut tué par l'épée de celui qui était assis sur le cheval, laquelle sortait de sa bouche, et tous les oiseaux furent rassasiés de leur chair. Et je vis un ange descendant du ciel, ayant la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Et il saisit le dragon, le serpent ancien qui est le diable et Satan, et le lia pour 1000 ans, et il le jeta dans l'abîme, et l'enferma, et il mit un sceau sur lui afin qu'il ne séduisît plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Apocalypse 19, versets 19 à 21 et 20, versets 1 à 3.
Ainsi, durant le règne de Christ, Satan sera lié dans l'abîme afin de ne plus séduire les hommes. Mais, à la fin du millénium, il sera délié pour un peu de temps. C'est ce que nous lisons en Apocalypse 20, versets 7 et suivants.
Et quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera délié de sa prison, et il sortira pour égarer les nations, Gog et Magog, pour les assembler pour le combat. Et du feu descendit du ciel de la part de Dieu et les dévora. Et le diable qui les avait égarés fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles.
Cinquièmement. Telle est la fin de Satan et de tous ceux qui lui auront obéi. Apocalypse 20, verset 15.
Et si quelqu'un n'était pas trouvé écrit dans le livre de vie, il était jeté dans l'étang de feu.
Pour nous, enfants de Dieu, il est dès maintenant un ennemi vaincu, quelque redoutable que soit sa puissance.
Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. 1 Jean 4, verset 4. Mais grâces à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ, 1 Corinthiens 15, verset 57. Vous avez vaincu le méchant, 1 Jean 2, verset 13 et 14. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, Romains 8, verset 37.
Néanmoins, nous sommes exhortés, eu égard à la puissance et aux ruses de Satan, à nous fortifier dans le Seigneur et dans la puissance de sa force, et à nous revêtir de l'armure complète de Dieu, afin que nous puissions tenir ferme contre les artifices du diable. Éphésiens 6, versets 10 et suivants.
Au reste, mes frères, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans la puissance de sa force. Revêtez-vous de l'armure complète de Dieu, afin que vous puissiez tenir ferme contre les artifices du diable. Car notre lutte n'est pas contre le sang et la chair, mais contre les principautés, contre les autorités, contre les dominateurs de ces ténèbres, contre la puissance spirituelle de méchanceté qui est dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez l'armure complète de Dieu, afin que, au mauvais jour, vous puissiez résister et, après avoir tout surmonté, tenir ferme.
Bientôt, nous n'aurons plus rien à redouter de sa puissance, et notre victoire sur lui sera définitive.
Or, le Dieu de paix brisera bientôt Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Romains 16, verset 20.
Chapitre 4. Les nations et le retour du Seigneur. Nous examinerons dans ce chapitre l'état moral des nations au moment du retour de Christ, tel que cet état est décrit dans la parole. Cette étude est particulièrement instructive, car elle permet de déceler, aujourd'hui déjà, certains faits précurseurs de la fin. Nous trouverons ainsi, dans quelques événements contemporains, la confirmation de la proximité du retour du Seigneur. Cette constatation sera bien propre à fortifier notre foi, à réjouir nos cœurs et à nous rendre vigilants. Vers Jésus, élevons les yeux. Bientôt ce Sauveur glorieux redescendra du haut des cieux. Dans cette bienheureuse attente, que notre âme soit vigilante, soyons prêts, craignons de dormir. Chrétiens, le Sauveur va venir. Premièrement, la première caractéristique des temps de la fin est le fait que le mal empire. Voici ce que nous lisons à ce sujet en 2 Timothée 3, versets 1 à 5.
Or, sache ceci, que dans les derniers jours il surviendra des temps fâcheux, car les hommes seront égoïstes, avares, vantards, hautains, outrageux, désobéissants à leurs parents, ingrats, sans piété, sans affection naturelle, implacable, calomniateur, incontinent, cruel, n'aimant pas le bien, traître, téméraire, enflé d'orgueil, ami des voluptés plutôt qu'ami de Dieu, ayant la forme de la piété, mais en ayant renié la puissance.
Qui ne reconnaîtrait dans cette description le tableau de la société actuelle? Point n'est besoin d'en reprendre les termes et de les confronter en détail avec ce que chacun de nous peut constater journellement. Même si l'humanité a manifesté ses caractères tout le long de son histoire, ces signes n'ont jamais été aussi accusés qu'aujourd'hui. Du reste, le mal s'aggravera toujours plus, comme il est dit au verset 13 de ce même chapitre.
De Timothée 3, verset 13, « Mais les hommes méchants et les imposteurs iront de mal en pis, séduisant et étant séduits. »
Nul ne saurait contester que le désordre moral, social et économique, le mensonge, l'égoïsme, l'âpreté au gain, l'orgueil, le mal sous toutes ses formes, n'ont jamais atteint un degré aussi étendu qu'aujourd'hui. C'est donc que la fin est proche et que le Seigneur va bientôt venir. Deuxièmement, un deuxième trait caractéristique des nations avant le retour de Christ consiste dans l'extension de l'erreur, signe avant-coureur de l'apostasie totale qui se produira après l'enlèvement de l'Église.
Or l'Esprit dit expressément qu'au dernier temps, quelques-uns apostasieront de la foi, s'attachant à des esprits séducteurs et à des enseignements de démons, disant des mensonges par hypocrisie, ayant leur propre conscience cautérisée. 1 Timothée 4, versets 1 et 2.
Que constatons-nous aujourd'hui déjà? Une abondance de faux prophètes, de fausses doctrines, de sectes pernicieuses. L'idolâtrie et le paganisme se répandent de plus en plus. Même certains membres du clergé, se disant chrétiens, propagent les erreurs les plus graves concernant la personne et l'œuvre de Christ, n'hésitant pas à mettre en doute, voire à nier les vérités fondamentales de la foi. On retranche et on ajoute aux Écritures, selon sa fantaisie, enseignant que tous les hommes et même le diable finiront par être sauvés, affirmant que la matière, la maladie, la mort ne sont qu'illusions, et prédisant l'avenir par des moyens mensongers. Enfin, le spiritisme se répand toujours davantage, les hommes s'attachant à des esprits séducteurs. En effet, la prétendue évocation des morts n'est en réalité qu'un commerce avec les démons. Ceux qui se mettent ainsi au service de Satan nous sont décrits par la parole de Dieu comme
de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, se transformant en apôtres de Christ. Et ce n'est pas étonnant, car Satan lui-même se transforme en ange de lumière. Ce n'est donc pas chose étrange si ses ministres aussi se transforment en ministres de justice, desquels la fin sera selon leurs œuvres. 2 Corinthiens 11, versets 13 à 15.
Et que dire de la déification de certains chefs d'État? L'homme se met à la place même de Dieu, exigeant un culte odieux qui préfigure celui que les peuples rendront de gré ou de force à l'image de la bête romaine. Apocalypse 13, verset 15.
Et il lui fut donné de donner la respiration à l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât même, et qu'elle fît que tous ceux qui ne rendraient pas hommage à l'image de la bête fussent mis à mort.
Comme la parole nous le déclare,
ils ont changé la vérité de Dieu en mensonge, et ont honoré et servi la créature plutôt que celui qui l'a créée, qui est béni éternellement. Amen. Romains 1, verset 25.
Au milieu de cette ruine, les élus sont invités à affermir leur témoignage, tout en se rappelant que tous ces faits sont autant de signes de la fin très proche du temps de la grâce.
Mais vous, bien-aimés, souvenez-vous des paroles qui ont été dites auparavant par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi, priant par le Saint-Esprit, conservez-vous dans l'amour de Dieu, attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Jude, versets 17 et verset 20.
Troisièmement, Il n'est pas surprenant qu'un pareil état de rébellion contre Dieu et contre son oint s'accompagne d'une haine implacable contre les élus. En effet, la parole annonce que les temps de la fin seront marqués par des persécutions religieuses. Déjà, le Seigneur avait averti ses disciples qu'ils seraient exposés à la haine du monde.
« Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui serait sien. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, mais que moi je vous ai choisi du monde, à cause de cela le monde vous hait. Souvenez-vous de la parole que moi je vous ai dite. L'esclave n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. » Jean 15, versets 18 à 20.
Ces paroles du Seigneur se sont réalisées au cours de l'histoire de l'Église, dont d'innombrables témoins furent persécutés et mis à mort. Mais durant les temps qui précéderont le retour du Seigneur, les persécutions reprendront dans une mesure beaucoup plus étendue.
« Alors ils vous livreront pour être affligés, et ils vous feront mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. » Matthieu 24, verset 9. Mais avant toutes ces choses, ils mettront les mains sur vous et vous persécuteront, vous livrant aux synagogues et vous mettant en prison. Luc 21, verset 12.
Bien que ces prophéties concernent avant tout le résidu juif fidèle, appelé à traverser la grande tribulation, elles n'en sont pas moins applicables à l'ensemble des temps de la fin, lesquels comprennent également la période qui précède le retour du Seigneur. D'ailleurs, là encore, il suffit d'ouvrir les yeux sur ce qui se passe aujourd'hui dans de nombreux pays pour constater que les persécutions religieuses sont de plus en plus à l'ordre du jour. Le diable redouble ses coups contre les élus, car il sait qu'il n'a plus beaucoup de temps, et, dans sa rage, il s'efforce de faire disparaître le témoignage du Seigneur. Dans certains pays, les chrétiens sont traqués, emprisonnés, privés de travail, de cartes de ravitaillement. Les lieux de culte sont fermés, détruits, transformés en musées de sans-dieu. Même dans les pays où la paix confessionnelle et la liberté religieuse ont été sauvegardées jusqu'ici, l'intolérance aurait au fait de réapparaître si le Seigneur, dans sa grâce, ne protégeait les siens. Quatrièmement, le passage de l'évangile de Luc que nous venons de citer annonce également, pour les temps de la fin, des guerres, des famines et des pestes. Luc 21, versets 10 et 11.
Alors il leur dit, « Nation s'élèvera contre nation, et royaume contre royaume, et il y aura de grands tremblements de terre en divers lieux, et des famines et des pestes, et il y aura des sujets d'épouvantement et de grands signes du ciel. »
Hélas, à peine sommes-nous sortis d'une terrible guerre mondiale que les hommes se préparent à une nouvelle mêlée, plus sanglante encore. L'essentiel de leur activité est orienté vers la guerre, et leurs ressources matérielles et intellectuelles sont mises au service de ce Moloch. C'est qu'ils se sont livrés à Satan, qui est meurtrier dès le commencement. La première guerre mondiale a coûté la vie à 10 millions d'hommes, la seconde à 30 millions, dit-on. Quant à la famine et aux épidémies, elles règnent dans plusieurs régions du globe. Tous ces fléaux nous ont été annoncés par la parole, non pour que nous en soyons effrayés, mais afin que nous y discernions les signes infaillibles du prochain retour du Seigneur.
Et quand vous entendrez parler de guerre et de sédition, ne vous épouvantez pas, car il faut que ces choses arrivent premièrement. Luc 21, verset 9.
Cinquièmement, un dernier signe annonciateur de la venue de Christ, signe auquel nous avons d'ailleurs déjà fait allusion, c'est le retour des Juifs en Palestine. Certes, ce signe est sans rapport avec l'état moral des nations, mais il est si caractéristique que nous ne voulons pas le passer sous silence. Le Seigneur annonce à ses disciples,
« Mais apprenez du figuier la parabole qu'il vous offre. Quand déjà son rameau est tendre et qu'il pousse des feuilles, vous connaissez que l'été est proche à la porte. » Matthieu 24, verset 32-33.
Nous avons vu que ce figuier qui pousse des feuilles est une image du peuple juif qui commence à rentrer en Palestine. Le Seigneur déclare expressément que cet événement annonce que cela est proche à la porte. En d'autres termes, même si nous n'avions pas les autres signes, celui-là suffirait à lui seul à nous convaincre de l'imminence du retour de Christ. Certes, il en est de ce signe-là comme des autres. Nous assistons aujourd'hui à un commencement, et le plein accomplissement de l'ensemble des signes aura lieu après l'enlèvement de l'Église. C'est alors que le mal atteindra son comble, que l'apostasie deviendra totale, que les persécutions, les guerres, les famines et les pestes seront universelles, et qu'Israël rentrera de toutes les régions du monde dans son pays, tandis qu'aujourd'hui ce rétablissement n'est qu'embryonnaire. Néanmoins, l'étude de ces signes prophétiques nous amène à la conviction que le Seigneur va revenir d'un instant à l'autre. Il nous invite d'ailleurs à ne pas négliger cette étude, mais au contraire à discerner les signes des temps, Matthieu 16, verset 3, afin que nous prenions garde et soyons vigilants, Marc 13, verset 37, et que nous nous réjouissions à la pensée de le voir bientôt.
Matthieu 16, verset 3, il y aura aujourd'hui de l'orage, car le ciel est rouge et sombre. Vous savez discerner l'apparence du ciel, et ne pouvez-vous pas discerner les signes des temps? Marc 13, verset 37, « Or ce que je vous dis à vous, je le dis à tous, veillez. »
Il nous dit,
« Voici, je viens bientôt. Moi, je suis la racine et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Et l'esprit et l'épouse disent, viens. Et que celui qui entend dise « Viens ». Celui qui rend témoignage de ces choses dit « Oui, je viens bientôt ». Amen. Viens, Seigneur Jésus. Apocalypse, chapitre 22, versets 12 et suivants.